De quoi s'agit-il?
C'est tout ce qu'il y a de simple, voyons.
Mais enfin, qui êtes-vous?
Répondez.
Je ne sais pas pourquoi vous nous faites perdre notre temps.
C'est vraiment incompréhensible.
Alors j'écoute.
Merci.
Eh ben je vous écoute, parlez, allez.
Allez-vous me répondre, oui ou non?
Cinérama.
Vous en êtes sûr?
J'en suis certain.
Ah, un petit mot encore.
Cinérama.
Que faites-vous maintenant?
Actualité cinéma.
Ah bah voyez-vous ça.
Et tout le reste.
Je ne crains pas d'affirmer que notre émission est une entreprise de salubrité publique. C'est délicieux. Nous avons tous nos petits fantasmes.
Je sais que vous êtes très occupés, aussi nous ne vous retiendrons pas longtemps.
Je serais ravi de vous croire.
Bonjour et bienvenue, c'est Cinérama, une émission qui fait une demi-heure et qui parle de cinéma avec toi Marine.
Oui, bonjour à tous. Alors moi aujourd'hui je vais vous parler d'un film très attendu, c'est Bohemian Rhapsody, c'est le biopic sur le groupe Queen. Et puis un autre film que personne n'attendait mais que j'ai quand même vu, c'est Invasion, un film iranien, vous allez le voir, un petit peu conceptuel.
Alors qui était en panorama à Berlin, c'est le cas aussi de Touch Me Not de Adina Pentillé, qui est, alors lui qui était à Berlin mais pour le coup qui a remporté l'Ours d'Or. Et donc, eh bien, je vous en parlerai, mais le gros morceau de cette émission, c'est En Liberté, la nouvelle comédie de Pierre Salvadori qu'on a pu rencontrer. Donc, on va l'écouter largement dans cette émission, parce que c'est un réalisateur qu'on apprécie énormément pour bien, toutes les comédies qu'il fait depuis les années 90. Et puis, on écoutera aussi eh bien, son acteur, Pio Marmaille. Voilà, c'est Cinérama qui débute, et on va d'abord voir si Bryan Singer, l'homme de Usual Suspect ou de X-Men, s'en sort bien avec Freddie Mercury.
Je me souviens pas du nom.
Cinérama.
Les hommages.
Et là, on met quoi?
Eh ben, c'est là qu'on envoie la grande séquence opéra.
Ah, opéra. Ah ouais, d'accord.
Mamma mia, mamma mia.
Mamma mia, let me go. Beelzebub has a devil put aside for me. For me. For me.
6 minutes, putain, c'est interminable.
Je plains ta femme si tu trouves que 6 minutes, c'est interminable.
En 1970, Freddie Mercury, Brian May et Roger Taylor forment un groupe assez anecdotique, hein, on peut le dire, qui s'appelle Queen et qui, comme chacun le sait, n'a pas laissé une trace énorme dans l'histoire de la musique. 300 millions d'albums vendus plus tard, le groupe n'avait pas encore eu de biopic à sa démesure et donc c'est finalement Bryan Singer qui s'attelle à cette lourde tâche avec dans le rôle de Freddie Mercury, Rami Malek, que l'on connaît surtout pour la série Mr. Robot et dont c'est ici le premier grand rôle au cinéma. Alors Bryan Singer, hein, disons-le tout de suite, a opté pour la facilité. Le film est une gentille playlist sans âme, calibrée pour vendre des best-of qui vous fera taper du pied sans vous faire trop réfléchir pour autant, distillant ça et là des private jokes à destination du public pour masquer la pauvreté des dialogues. Pour ne pas risquer d'ennuyer son spectateur, ça pour le coup c'est réussi, hein. Les 2h15 du film passent en un éclair, on a opté pour un montage insupportablement cut à tel point que l'on prie parfois pour que la caméra reste, ne serait-ce que le temps d'une phrase sur un visage. Et puis alors ça envoie des effets visuels qui se voudraient vintage, mais qui sont juste ringards dans tous les sens. Esthétiquement, le film ne sait pas vraiment sur quel pied danser. C'est un comble quand on parle de Queen. Alors bien sûr, hein, quelques scènes, notamment le quart d'heure final, sont assez galvanisantes. En même temps, vous mettez la musique de Queen sur n'importe quelle image, l'effet est galvanisant. Je pense que même sur du Michael Haneke, ça marche, à mon avis. Finalement, être devant ce film, eh bien, c'est un peu comme si vous étiez dans une soirée dans laquelle les gens ne sont pas intéressants, mais comme vous dansez avec eux sur des morceaux de Queen, vous vous amusez quand même. Et bien voilà, c'est le même principe sur Bohemian Rhapsody. John Ford disait « Si la légende est plus belle que l'histoire, imprimez la légende ». Alors visiblement, Bryan Singer a bien compris la leçon, puisqu'à en croire le film, hein, Queen est sorti d'une pochette surprise et a connu un succès fulgurant. Du moins, c'est ce que laissent penser les multiples ellipses du film, ni inspirées, ni justifiées. On va par exemple écouter un passage où alors on nous explique comment composer un hymne pour les stades, mais alors vraiment en quelques secondes, comme ça.
Tous en rythme, allez. Avec moi. Ok, sur le troisième, on tape des mains. Il se passe quoi, ici?
Tu le saurais si t'étais ponctuel.
Je veux donner au public une chanson à interpréter. Et qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Imagine entendre des milliers de gens qui font ça ensemble.
Hein? Ouais.
Et les paroles dans tout ça.
Alors, on aurait aimé, hein, dans dans le portrait de Freddie Mercury un peu d'introspection, un peu d'intime, mais le film préfère en faire une diva totalement caricaturale qui compose des chefs-d'œuvre en quelques secondes, en se mettant sur son piano. Le film finalement s'arrête à la dimension iconique de la star, sans rendre hommage à l'artiste qu'il était réellement, et en édulcorant au passage largement sa vie privée. Rami Malek est malheureusement complètement prisonnier de son personnage, de sa performance à Oscar et de sa prothèse dentaire, trop excessive, trop maniérée. On se demande du coup ce qu'aurait pu donner à sa place Sacha Baron Cohen, hein, qui était initialement présenté pour le rôle et qui s'est désolidarisé en fait du projet parce qu'il lui paraissait justement un peu trop édulcoré. Et puis, un peu plus problématique, pour correspondre à la trame dramatique du Rise and Fall, à savoir le héros qui connaît le succès, puis la déchéance et finalement la rédemption, les scénaristes ici ont pris des libertés avec la réalité qui sont un peu douteuses. Le film se termine sur le concert de Queen à Wembley, qui a été vu par un milliard de personnes à l'époque, en 85. Un concert au cours duquel, dans le film, Freddie Mercury, qui vient d'apprendre qu'il a le sida, se réconcilie avec son ex-femme, ses parents, son groupe, rencontre l'amour et revient sur scène alors que deux jours auparavant, il était aphone. Sauf qu'en réalité, Freddie Mercury n'a appris qu'il était malade que bien après ce concert. Ça, c'est une des libertés seulement que les scénaristes ont pris. Voilà, on va dire, encore une fois, pour imprimer la légende au détriment de la réalité et de l'artiste.
Ouais, j'étais très surpris que ce soit l'acteur de Mr. Robot, la série où le personnage joue un hacker. Alors, je le trouve très bien dans le rôle du hacker, mais dans le rôle de Freddie Mercury, il a pas l'ampleur physique. En
exactement,
tout cas,
et puis surtout, il n'est pas beau comme l'a dit Freddie Mercury, qui était extrêmement beau et qui était quand même assez charpenté, qui était assez grand.
Non,
il fait du personnage. Très androgyne.
Ouais. Eh bien, maintenant, on passe au gros morceau de cette émission. C'est l'interview de Pierre Salvadori, le blind test aussi sur sa filmographie. On s'occupe de tout.
Vous avez vu un bon film aujourd'hui ?
Cinérama.
Non, j'ai été plutôt déçu. Alors c'était sûrement une comédie.
La comédie de l'année, peut-on voir en guise de punchline sur l'affiche du dernier film de Pierre Salvadori, En liberté, un nouveau film pour ce réalisateur qui a choisi à contre-courant l'univers de la comédie dès les années 90 pour ne jamais lâcher ce genre dans lequel il excelle en appliquant des recettes cinématographiques simples et efficaces. Le mensonge est souvent au cœur de ses films et ici, il est de différentes natures. Le film commence de manière invraisemblable avec un policier super héros implacable, genre de Mel Gibson en mode Rital, interprété par Vincent Elbaz, donnant des roustes très virevoltantes à base de portes défoncées, de vitres brisées, à d'odieux malfrats. Et ce policier, c'est celui d'une fiction, celle que raconte Yvonne, inspectrice de police, à son fils pour dépeindre en long, en large et en travers la bravoure de son défunt mari, qui a été flic comme elle, le capitaine Santi. Mais il n'y aurait pas de comédie s'il n'y avait pas de rupture. La veuve, délicieuse Adèle Hanel, au passage, apprend que son mari n'avait rien d'aéro, mais tout d'un ripoux, et qu'il a fait enfermer un innocent. Et comme le hasard fait bien les choses, Antoine, exceptionnel Pio Marmaille, sort de prison après 8 années. Un être enragé qui ne supporterait pas la vérité, un pur personnage de comédie, le voilà qui mord les oreilles, s'amuse à jouer au bourre-pif en discothèque, met le feu au restaurant, une vraie tempête, un vrai déluge, un concentré d'explosifs. Et évidemment, la jeune inspectrice qui voit tout ça, se sent coupable et aimerait bien réparer l'irréparable. Il va s'agir pour Yvonne de jouer très fin, car impossible d'avouer qu'elle est flic. Et encore moins, la femme du policier qui a mis en taule le pauvre Antoine, qui, en plus de s'accoutumer à la vie et aux autres, ce qui n'est pas facile quand on sort de prison, va devoir également renouer avec sa compagne bienveillante qui, elle, a patiemment attendu qu'il recouvre la liberté ravissante Audrey Tautou, comme toujours. Au passage, comme dans quasi toutes les comédies de Salvadori, Yvonne va devoir user de mensonges, se cacher, détourner la vérité pour mieux arriver à ses fins. Et dans ce long parcours fait de quiproquos, de rebondissements, de loufoqueries, de fantaisies, de burlesques, d'absurdes, la comédie va naître et mourir pour nourrir le drame latent et se renouveler encore pour atteindre un plus haut degré de comédie. Dans le fond, cette histoire pourrait être un drame, mais les écarts que place Salvadori dans sa mise en scène, en aiguisant son point de vue, en favorisant le jeu et les situations, transforme cette histoire en farce noire jubilatoire traversée d'élan poétique et même sadomasochiste. Alors on notera par exemple le moment où Antoine revient à l'improviste vers Audrey Tautou après 8 années passées en prison et que celle-ci ne s'y attend pas. Elle demande alors à son compagnon de rejouer la scène où il entre dans le jardin, pur instant où la fiction s'imbrique dans la fiction pour créer l'émotion et l'instant parfait. Salvadori est un incroyable faiseur. Certains de ses films peuvent avoir des défauts, mais celui-ci ne semble en avoir aucun. Enfin, en tout cas, j'ai pas l'impression.
Oui, je suis complètement d'accord, en fait. Comme je le disais la semaine dernière en parlant du Grand Bain, enfin des comédies françaises sans humour sexiste, raciste et homophobe. C'est possible, à une semaine d'écart, deux comédies réussies.
Et on va écouter le réalisateur et puis l'acteur, donc Pierre Salvadori et Pio Marmaille, et après on jouera un blind test.
Pendant 8 ans, j'ai vécu avec un sale type, un sale mec, un minable. Tu sais quoi le pire? Il a mis un innocent en prison.
Tu m'excuses, je cherche les cigarettes. Je reviens dans 5 minutes.
Moi, j'ai été assez touché par l'ensemble du travail, l'ensemble de la proposition de Pierre, parce qu'il y a une cohérence, je trouve de la poésie aussi qui se dégage du truc, et puis des coups de couteau, des crevages d'œil, des trucs comme ça que je trouve assez rare, en tout cas dans le cinéma français. En général, on fait très peu exploser des meubles dans les films qu'on propose, quoi. Tout ça en plus avec un sens de la comédie assez fort, donc moi j'ai tout de suite trouvé ça singulier, quoi, assez exceptionnel, quoi. On est resté quand même très proche de l'écriture, je dirais, du scénario. Il n'y a pas beaucoup d'endroits d'improvisation, dans le sens où il y a peut-être des petites choses, mais on est quand même resté assez proche, très très proche du texte. Et forcément, il y a tout de suite quelque chose qui surgit, je dirais, la lecture. C'est tout de suite quelque chose d'assez brillant. Enfin, moins d'une catastrophe terrifiante, je ne vois pas comment on aurait pu rater le travail, quoi, parce qu'il y avait déjà une base d'écriture assez géniale, quoi.
Hey Yvonne, ça va? Il va bien, le gars. Il a fait de la muscu, il a pris des champs de Corse.
Louis, c'est notre faute, tout ça. Il est perdu, ce type, il est complètement largué.
Et ce qu'on raconte n'est absolument pas léger. Il peut y avoir une certaine légèreté, une forme d'humour dans ce qui est dit, dans la langue. Mais je veux dire, la situation, c'est comme un mec qui sort de 8 ans de prison, qui est innocent, qui crève les yeux des autres, qui leur bouffe les oreilles. C'est quand même, il y a une sorte de fêlure, et puis de rage, de fureur, quand même assez important. Donc c'est ça aussi, c'est quand même quelque chose d'assez profondément dur, quoi, je trouve. Donc arriver à en faire quelque chose à des moments assez légers, je pense que c'est un plus, mais je pense que le fond, il est quand même assez dur, assez dramatique.
Vous pensez que vous en avez pour longtemps, parce que...
Je suis désolée, je suis encore au travail.
Je vais prendre une bouteille de cognac, s'il vous plaît.
Avec du pain. Je vous demander de régler, quitter l'établissement.
Je m'attendais un peu plus de souplesse.
Mais oui, non, enfin, il est un peu tard, pardonnez-moi, mais...
Il n'y a pas une comédie dont on se souvienne qui parle d'un personnage bien dans sa peau, à qui il n'arrive rien de grave. Au fond, ce qui est drôle, et très souvent, c'est comment des personnages maladroits se débattent dans des situations tragiques. C'est très souvent ça la base de la comédie, et ça existe depuis 1000 ans. Si on regarde un Chaplin ou si on regarde un Keaton, c'est des histoires de solitude, d'empêchement, de pauvreté, et puis auxquelles on oppose, si vous voulez, un combat, une vitalité et une énergie, mais qui n'est pas toujours bien placée. Et au fond, c'est ce décalage entre quelqu'un qui va mal, mais qui essaie de s'en sortir maladroitement. C'est souvent ça qui provoque la comédie la plus stimulante. Et puis, de toute façon... C'est aussi ce qui nous rattache à la comédie. Il y a très souvent au personnage de comédie, une compassion, une affection pour ces personnages-là. Pio, il joue un personnage violent et tourmenté. D'ailleurs, il le joue d'une façon tragique. C'est jamais joué d'une façon comique. C'est les situations ensuite qui créent ce décalage et qui créent la comédie. C'est intéressant parce que, au fond, comment quelque chose d'aussi noir peut tout doucement et produire du rire, c'est vraiment une question de point de vue, hein, vous savez, c'est vraiment une question de rythme, de point de vue et de réaction. Parce que très souvent, la comédie, c'est la réaction et pas l'action. Par exemple, effectivement, Pio, il sort de boîte de nuit, il cache sa colère à la femme qu'il aime, c'est un personnage qui dissimule, c'est aussi souvent ça, la comédie, la dissimulation. Il pète la gueule à des gens, en soi, c'est pas drôle. Mais si vous mettez un plan de coupe sur Audrey Tautou qui comprend pas, parce que juste deux minutes avant, il lui dit qu'il est apaisé, qu'il est serein et que finalement il a encaissé tout ça, là tout à coup ça devient un peu plus drôle. Si ensuite vous rajoutez un deuxième plan de coupe sur Adèle Haenel, c'est encore un peu plus drôle. Et puis tout doucement, au fond, on s'aperçoit que c'est la comédie, c'est souvent une affaire de point de vue. Mais c'est ça faire un film, hein, c'est avoir un point de vue sur une histoire.
Mais c'est quoi ce truc de massacrer calmement les gens comme ça? On n'avait pas l'impression que tu te battais, on avait l'impression que tu rangeais ton bureau.
Oh.
Ça va, monsieur?
Pardon, oui, parfaitement, madame.
C'est ça l'excuse? J'ai fait 8 ans de temps, je suis innocent, j'ai le droit de scalper des vigiles sur le trottoir? Non mais tu te rends compte que t'as bouffé le règne de ce mec?
C'est en fabriquant le film que je me suis rendu compte qui m'offrait énormément de possibilités. À partir du moment où on a eu l'idée, et où finalement le film c'est aussi ça, c'est l'histoire d'une mère qui essaie de dire la vérité à son fils, à partir du moment où on a eu cette idée, c'est-à-dire que cette vérité se transmette par la fiction, par des histoires, comme très souvent la fiction nous aide à transmettre la vérité, à grandir. À partir du moment où on a eu cette idée, et où on a eu l'idée de montrer ces histoires, ça a ouvert des possibilités infinies pour le film. Parce que si vous ouvrez un film par une baston infernale, et puis que tout doucement ça se décale un petit peu, puis qu'un mec traverse un mur, puis on comprend que c'est pas vraiment bien, et puis qu'ensuite, juste après, il y a un cut, et que vous êtes dans une chambre avec un enfant qui a perdu son père, et que cette séquence, tout à coup, est un petit peu teintée de mélancolie, etc., ça ouvre un champ des possibles incroyable. Et vous dites, mais là, il y a une possibilité de liberté et de rigueur et de poésie qui s'ouvre à nous, qui est formidable. Même quand il y a le braquage, il y a des spectateurs avec des personnages qui regardent le braquage à travers un... On est constamment dans l'idée d'avoir un rapport un petit peu enchanté au réel.
Vous voulez pas laisser les cuisines ouvertes? Vous vous foutez de moi, là? 2 heures de retard, vous foutez le feu à la ville.
Alors, choisir la comédie, je ne peux pas dire que ce soit un risque, parce que je sais que souvent, des réalisateurs peuvent dire qu'ils choisissent quelque chose de difficile, qu'ils sont les seuls à aborder tel sujet, etc. Moi, je sais qu'on fait ce qu'on peut. Je ne connais pas un réalisateur qui, au fond, se dit « Ok, qu'est-ce qui est vraiment compliqué pour moi? Qu'est-ce que j'aurais du mal à dire, à faire? Tiens, je vais choisir ça. » Je pense qu'on tend vers ce qu'on imagine être sa force ou son expression idéale, enfin son mode d'expression idéale. Moi, j'ai un grand amour de la comédie. C'est la première chose qui m'est réellement percuté au cinéma. Donc je choisis la comédie par penchant, mais pas par courage. Après, j'y trouve de la beauté. Puis je trouve que c'est un genre éminemment cinématographique. C'est très propice à un idéal de mise en scène, c'est-à-dire sophistiqué, réfléchi. Vous voyez ce à quoi vous avez recours pour la mise en scène, pour la comédie, si vous en avez une idée un peu... Enfin, si ça vous stimule, ce sont des outils profondément cinématographiques, de narration, le hors-champ, l'ellipse, le décalage, la litote, toutes ces choses-là, quoi. Ce sont des choses, des dialogues plus ou moins. Oui. Ça me paraît. Alors que j'ai plus de mal avec une forme de vérisme au cinéma ou de réalisme.
Vous en avez pas marre de moi?
Ta gueule, mais bien sûr que j'en ai pas marre de vous.
Oh, je sais pas comment vous faites. Mais moi, j'en peux plus de moi-même.
Pardon,
il est à bout. Pio Marmaille, donc, dans En Liberté, on l'écoutait au début de cette interview, et puis ensuite c'était Pierre Salvadori, voilà, qui est quelqu'un qui sait très bien parler, non seulement de ce qu'il fait, mais de son métier de metteur en scène, réalisateur. On joue très vite à un blind test, 5 extraits de sa filmographie à reconnaître. Premier extrait.
Je vais me coucher.
Non ? Eh, oh ! Je te rappelle qu'on est censé partager le fric. Eh, oh ! Je te rappelle que ça fait 3 fois que je paye le téléphone et l'électricité.
C'est moi qui ramène la bouffe.
Ah oui, tout ce que tu ramènes, tu le piques.
Et alors?
Et alors? Eh ben, on bouffe que ce qui rentre dans tes poches. Hein? Du gruyère, des steaks surgelés, des sardines en boîte, du poisson pané. On bouffe que des trucs carrés. Dis donc, je te parle de vraie nourriture, moi. Tu comprends? Une laitue, par exemple. Pique une laitue la prochaine fois! T'as compris?
Ah oui, quand on engage François Cluzet, il vaut mieux lui faire parler fort la colère. Donc François Cluzet, Guillaume Depardieu, le duo des apprentis, Marine, en 1995. Deuxième extrait.
Vous pouvez pas partir comme ça sans rien dire.
Bah, si, bien sûr que si, la preuve.
Rachel, qu'est-ce que j'ai fait?
Mais rien, c'est pas forcément lié à vous. Qu'est-ce que vous pouvez être vaniteux?
Hein?
Présomptueux, tiens, c'est incroyable.
Quoi? Jeanne! Vous m'avez dit des choses cette nuit.
Qu'est-ce que je vous ai dit?
Que quand vous étiez à côté de moi, vous sentiez bien calme.
Et je m'en souviens plus.
Que dans mes bras, vous aviez la sensation d'être sous un arbre immense et que rien ne pourrait vous arriver.
Manquait vraiment de pudeur.
Quoi? Mais c'est vous qui l'avez dit!
Mais c'est pas une raison pour le répéter, j'étais bourrée, c'était la nuit. Ce matin, il a l'air malin, l'arbre immense avec son bouquet de fleurs et sa baguette. C'était rien, tout ça, c'est de l'ivresse.
Jeanne, comment ça, c'est rien? Vous avez pas le droit de dire ça. Je crois qu'avec moi, c'était différent.
Mais chaque homme croit qu'avec lui, c'est différent. D'ailleurs, ça l'est, forcément.
Marie Trintignant, qui n'arrive jamais à rester sincère plus de 2 minutes, c'est comme elle respire. Avec le duo, cette fois-ci, Guillaume Depardieu toujours, mais Marie Trintignant.
Le chêne. Mais pourquoi vous avez coupé le chêne?
Mais pour récupérer un peu de soleil.
Mais il était magnifique, c'était un arbre 3 fois centenaire.
Mathilde, faut pas qu'on tarde parce que...
Mais enfin, c'est ridicule. On coupe pas un chêne, on l'éclaircit.
Je suis désolée.
Oh.
Qu'est-ce qu'il y a, madame?
Bah, ils ont coupé le vieux chêne.
Mais qui?
Tes parents.
Madame.
Mais maman, pourquoi vous avez coupé l'arbre?
Mathilde, on va peut-être y aller parce qu'il y a un RER à 27. C'est bon. Oh hein.
Mais il est où? Il était là. Qu'est-ce que vous avez fait de l'atelier de mon père?
Il est où le...
Écoutez, madame, je vais partir.
Mais vous l'avez détruit? C'était tellement beau, il avait fait une verrière avec son frère, c'était magnifique.
Mais il était complètement délabré et on avait besoin d'une chambre
pour la c'est dingue. Mais regardez, Antoine, pour faire ce truc suédois en plus.
Bah...
Pourquoi il crie, la dame?
La dame, elle crie parce que tes parents, ils ont cassé ma maison.
Alors cette fois-ci, ça a été trouvé, Marine, enfin.
Oui, bah, je pense que c'est dans la cour. Oui. Je ne l'ai pas vu, mais bon, j'imagine, vu que c'est la voix de Catherine Deneuve.
Tout à fait. Là, le duo est formé avec Gustave Kerven et il y a déjà Pio Marmaille dans ce film qui est un voleur compulsif de vélo. Quatrième extrait.
Tu trouves que j'ai du charme ? C'est ce qu'on dit à quelqu'un quand on le trouve pas beau, ça.
Mais le charme, c'est mieux que la beauté. On peut résister à la beauté, mais pas au charme. Mais montre-moi comment tu fais pour être... pour séduire.
Comment ça, comment je fais ?
Bah, t'as bien un truc que t'as mis au point devant ta glace quand t'avais 15 ans.
Non, j'ai pas. Non.
Bah, invente. Vas-y, séduis-moi.
Non, j'ai
pas. Allez, fais-moi le regard qui tue.
Mais non, ça, c'est pas comme ça. C'est...
Allez ! Bah allez, vas-y.
Bah ça y est, j'avais commencé, là.
Pardon.
Alors, c'est encore un duo, c'est celui de...
Gad Elmaleh et Audrey Tautou, c'est l'heure de Free.
Oui, film de 2006, le gros succès de Salvadori. Dernier extrait, et tout en longueur.
Donc, vous parlez couramment le coréen ?
Oui.
Et le japonais ?
Oui.
Et donc, tout à l'heure, dans le salon, vous gueuliez en coréen ou en japonais ?
En chinois.
Et pourquoi vous ne l'avez pas mis, ça, dans votre CV ? Responsable du... Comment vous dites ?
Pôle traduction, secteur asiatique.
Voilà. Pourquoi ?
Parce que je pensais que c'était pas tellement utile pour ce que vous cherchiez.
Et combien de personnes travaillaient sous votre responsabilité à l'UNESCO ?
L'UNESCO ?
Ben, l'UNESCO, oui. C'est ce que j'ai dit. Combien ?
31.
Et vous avez fait beaucoup d'études pour en arriver là ?
Oui.
Et... Pourquoi vous faites des travaux ici alors que vous pourriez être là-bas à traduire des trucs importants ?
Je me suis fait renvoyer.
Pourquoi ? Si c'était pas indiscret ?
J'ai fait une dépression. Une nuit, en plein milieu d'une négociation entre Italiens et Chinois, j'ai frappé l'ambassadeur italien et je me suis effondré en larmes.
Vous parlez italien aussi ?
Encore un duo, c'est...
Samy Boisgila et Audrey Tautou, c'est de vrais mensonges.
Eh oui, film de 2010. Et ainsi s'achève eh bien, ce blind test spécial Pierre Salvadori.
J'ai brillamment gagné.
Et on vous invite tous donc à aller voir En Liberté dans les salles françaises.
J'ai quelque chose à dire.
Cinérama.
Mais tâchez de faire vite.
Et on enchaîne maintenant avec Invasion. Alors c'est une curiosité hein, qui nous arrive d'Iran, pays au demeurant peu prolixe en termes de production cinématographique, et non des moindres, un film post-apocalyptique, un film de vampires et un film tourné en un seul plan séquence. Dans un futur proche, la Terre ne reçoit plus la lumière du soleil et a été recouverte par les ténèbres. Les humains ont dressé une frontière entre leur monde et l'autre côté, dont nous ne saurons jamais réellement en quoi elle consiste, afin d'éviter une supposée immigration. Certains humains, majoritairement retranchés dans cet autre côté, ont contracté une étrange maladie dont on comprend peu à peu qu'elle les oblige à boire du sang. Voilà pour le décor. L'action, elle, se déroule en 1h30 dans un lieu unique, un gymnase. Un jeune homme, Ali, y a rendez-vous pour effectuer la reconstitution du meurtre de son meilleur ami, Saman. Il rencontre à cette occasion sa sœur jumelle, Negar, et découvre que plus d'une fois, pensant parler à son meilleur ami, c'était en fait sa sœur qui prenait sa place et que les deux jumeaux souffraient de la même addiction au sang. Alors ça a peut-être l'air un peu nébuleux hein, raconté comme ça, mais croyez-moi, quand vous voyez le film, c'est pire. Moi, j'ai regardé deux fois ce nouveau film de Shahram Mokri pour tenter d'en démêler la complexité. Il faut admettre que la narration adoptée ici ne fait rien pour aider le spectateur, le perdant dans un labyrinthe autant physique que mental. Sans s'arrêter à un tour de force stylistique, à savoir le plan séquence, le réalisateur double cette prouesse formelle d'une quête intérieure de son personnage, matérialisée par une voix off. Un personnage dont nous découvrons au fil du film ses relations avec son ami qui s'avère donc, même si ce n'est jamais dit, être un vampire. Il est d'ailleurs assez intéressant de constater ce regain d'intérêt, même si ça reste anecdotique, du cinéma iranien pour le film de vampire. J'avais déjà chroniqué ici en 2015 un film intitulé « A Girl Walks Home Alone at Night » dans lequel... Et bien comme ici aussi, nous suivions une jeune fille vampire, alors vampire et voilée, hein, puisque les femmes dans le cinéma iranien doivent avoir la tête couverte. C'est peut-être une façon, je ne sais pas, pour ce cinéma d'exorciser la peur de l'obscurantisme en mettant en scène une autre forme de monstre, je ne sais pas. Pour ce qui est du plan séquence, Jahram Mokri est coutumier du fait. Son précédent film, Le Poisson et le Chat en 2013, reposait déjà sur le même procédé. Ici, cela fait véritablement sens puisque l'on suit au sens propre du terme le personnage principal. Il n'y a pas de champ contre champ, pas de gros plans ni de fuite dans le décor. Et puis, la mise en scène se double d'une difficulté supplémentaire. Le plan séquence effectue en réalité une sorte de boucle temporelle allant dans le passé et dans le futur, ce qui, vous l'aurez compris, participe à définitivement perdre son spectateur. Le concept est malheureusement un peu trop poussé pour ne pas être hermétique. Alors Jahram Mokri sait où il va, hein, malgré les digressions philosophiques et horrifiques de son film, mais il peine un peu à savoir comment nous y emmener.
Eh bien, c'est un film donc à voir deux fois. Allez, on plonge au cœur du corps et de l'intimité.
Nous sommes tous, pour autant que ces mots aient un sens précis,
Cinérama,
parfaitement au point et incapable de nous tromper.
Pas facile de parler du film qui a remporté cette année l'Ours d'or à Berlin, Touch Me Not, de la Roumaine Adina Pintillé. Et pas facile non plus pour un distributeur qui en a vu d'autres, pourtant, de proposer ce film qui flirte avec l'expérimental. Alors, dans le dossier de presse, la réalisatrice nous explique qu'à 20 ans, elle croyait tout savoir sur la manière dont fonctionne le désir. Mais 20 ans après, eh bien, c'est le gros doute. Hein. Les idées sur l'intimité sont devenues de plus en plus complexes, voire contradictoires. Et le film Touch Me Not est donc le reflet de ce parcours personnel. C'est aussi une recherche artistique sur le désir humain et notre incapacité à toucher et à être touché, à être en contact avec l'autre. Vous l'avez compris, pour regarder Touch Me Not, mieux vaut déjà se poser ces questions ou aimer le questionnement. Alors l'intimité naît très tôt hein, pour l'être humain. Chez le nouveau-né, elle apparaît entre la relation qu'il tisse bien souvent avec sa mère. Le film s'articule donc autour d'une idée simple. Dis-moi, comment tu as été aimé et je te dirai comment tu aimes. Les premiers contacts du nourrisson conditionnent toute la charge affective à venir, le rapport au monde et aux autres et la manière d'aborder l'intimité. Mais si on reste sur ce terrain-là, eh bien on change de cercle, hein, passant de l'émission sur le cinéma à celle sur la psychologie. Pourtant, Touch Me Not s'annonce bien hein, comme une thérapie de groupe et se propose également d'ouvrir le spectateur sur ses propres attentes, ses questions, blocages et ses limites sur la sexualité, le corps et l'intime. Parler de Touch Me Not, c'est parler du cadre très formel qu'a choisi la réalisatrice. Constamment baigné dans une lumière blanche presque clinique, on suit les questionnements d'une part de la réalisatrice et d'autre part de l'actrice Laura Benson qui vit un blocage refusant de toucher ou d'être touchée. Alors elle multiplie les expériences pour comprendre. On la voit avec un callboy qui se masturbe devant elle. On la voit discuter avec un transsexuel qui met en scène une performance de peep show ou encore avec un psychothérapeute qui lui propose de faire sortir la bête intérieure. Alors, on voit aussi une séance de psychothérapie autour du toucher entre plusieurs corps. Et là, c'est très intéressant. Certains paraplégiques, d'autres juste différents. Et cela est sans voyeurisme hein, pour parler du corps et de l'intimité. Le film ne convoque pas des canons habituels de beauté, mais des corps avec leur singularité. On découvre ainsi, et c'est peut-être une banalité de le dire ainsi, que chacun, gros, grand, petit, maigre, difforme, handicapé, eh bien, a ses propres questionnements sur l'intimité, sur ce qu'on peut donner et recevoir de l'autre. Et l'on se retrouve alors face à des situation insolite où le personnage qui a notamment un corps atrophié nous parle d'abord de ses yeux bleus puis de son sexe comme un de ses atouts essentiels car son sexe eh bien lui n'est pas altéré. Paradoxalement, s'il se questionne, il ne subit pas les blocages du personnage principal qui elle a beau marcher, avoir un corps qui est plutôt comme dans la normalité, eh bien elle se refuse au moindre contact. On navigue toujours entre fiction et documentaire, acteurs et personnes jouant leur propre rôle s'entremêlent pendant deux heures où le temps, il faut bien l'admettre, sera long pour certains, qui trouveront soit la forme vaniteuse, soit vide de sens, mais pour d'autres, pour peu qu'on soit intrigué par le corps et ses répercussions sur la psyché, eh bien, trouveront toujours quelques bribes à conserver. Le film fourmille aussi de scènes étonnantes, l'apparente gaieté et tranquillité du transsexuel est notamment salvatrice.
Mírame, la melancolía. Melancolía, mon cher. Mírame, la melancolía. Schwebt über der neuen Stadt.
Pour composer cette bande originale, notamment ce son de Heinz Schürzenheim-Neubauten, le grand groupe allemand des années 90-2000, avec ce titre Mélancolia.
C'est fini ?
Eh bien, oui, je crois que oui.
Oh, c'est pas possible !
Si, je vous assure.
Vous n'avez pas perdu de temps, c'est très bien.
Foutez-moi le camp !
La semaine prochaine, je vous parlerai de Samoun Hirod, un documentaire palestinien, et Un amour impossible, le dernier film de Catherine Corsini.
Et puis moi, je vous parlerai d'un vainqueur à Cannes, Heureux comme Lazaro, et puis eh bien, d'un film français, Un homme pressé.